Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Salut, c'est Nadia de Nanner Podcast. Avant que tu découvres ce nouvel épisode, j'aimerais te parler de Yes Podcast. Yes, c'est le podcast qui m'a donné la force de me lancer. C'est un podcast féministe et résolument positif. Deux fois par mois, Margaïd, Elsa et Anaïs célèbrent nos victoires de femmes contre le sexisme sous toutes ses formes. Yes, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour toutes les warriors du quotidien. Tu peux les écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Souvent, j'ai entendu la phrase « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu viens ». Aujourd'hui, cette phrase prend tout son sens. Car oui, longtemps je ne savais pas où j'allais. Je suis la première personne à être née en France dans ma famille, à vivre de façon aussi viscérale cette double culture, sans savoir comment m'y prendre car la voie n'a jamais été tracée. Cela faisait des années que, comme beaucoup d'entre nous, je me disais qu'il fallait absolument que j'ose poser des questions à mes parents et que je les enregistre, pour connaître leur histoire tout d'abord, mais aussi pour la transmettre. Cela peut sembler anodin pour certains, mais chez moi, la pudeur est de mise et on ne parle pas si facilement de nos émotions. Mais j'étais persuadée que si je ne le faisais pas, je le regretterais toute ma vie. Je suis Nadia, bienvenue dans Nanner Podcast. L'été dernier, après une séance avec une énième psychologue, je réalise à quel point je ne connais pas l'histoire de ma famille, et donc une partie de la mienne. Je me rends compte que si je ne sais pas où je vais, si je me sens si perdue et démunie face au chantier que semble être ma santé mentale, c'est peut-être parce que je ne sais pas vraiment d'où je viens. Cette séance téléphonique avec cette psychologue crée un véritable déclic. Je raccroche et je me jette sur le bon coin pour trouver un micro-enregistreur d'occasion, je prépare quelques questions et j'embarque une partie de ma famille dans cette interview dans le salon familial. J'ai pris une grosse respiration et j'ai posé mes questions. On a tremblé, on a ri, on a même pleuré. J'ai enchaîné des questions en apparence simples, mais qui en réalité portent le poids de notre histoire. Histoire qu'aujourd'hui je te transmets, car elle fait aussi partie de l'histoire de chacun et chacune d'entre nous. Faire résonner la voix de mes parents dans tes oreilles, c'est aussi te conter l'histoire de milliers de personnes à qui on a trop rarement accordé la parole. À nos identités plurielles. Mon père s'appelle Mohamed, comme souvent on appelle l'aîné dans les familles musulmanes.
L'année de naissance, c'est le 1-1-52.
C'est ta vraie année de naissance ou...
C'est ma vraie, c'est ma vraie date de naissance. Aux alentours de 1952. C'est mes papiers, c'est ça que j'ai. Je ne connais pas la vraie parce que le pays, ça a été colonisé par la France. À l'époque, on n'avait pas tout ce qu'il faut pour avoir exactement la date.
Le 31 décembre ou le 1er janvier, c'est la date de naissance administrative de beaucoup d'hommes et de femmes issus de l'immigration. À défaut de date précise pour leur naissance, l'administration du Maroc, sous protectorat dans les années 40 et 50, indiquait seulement l'année. D'ailleurs, elle aussi souvent approximative. Pour ma mère, c'est ajouté une erreur. Aujourd'hui, quand on lui demande de donner son prénom, elle demande lequel.
في الورق في حالة المدنية نتزوجت في حالة في الورق نتاع الزواج دار حرية.
السمية ديالك الحقيقة اللي سمى لك باك هي تورية.
هي تورية.
Ses parents l'ont appelée Touria. Touria. Mais des erreurs administratives font qu'officiellement, son prénom est Ouria. Ouria. Et moi, j'en viens à me demander comment on arrive à prendre sa place lorsque ce qui fait l'identité, la date de naissance et le prénom ne sont pas connus ou respectés. Comment on s'ancre dans une histoire ? Dans ma quête d'identité, j'ai essayé de reconstruire cette histoire dans une famille où la culture de l'oralité règne par tradition, mais aussi car beaucoup sont illettrés ou analphabètes. Enregistrer et écouter leurs paroles prend encore plus de sens. L'identité de Mohamed et Touria repose sur bien plus que des informations sur leur carte de séjour. C'est leur parcours qu'ils ont partagé avec moi, et je me tâcherai de le transmettre pour le faire connaître et exister. Mes parents sont originaires de deux villages près d'Oujda, au nord-est du Maroc. Mes grands-parents maternels étaient fermiers. Je me souviens de tous ces étés dans leur maison à la campagne, de leur élevage de moutons et de chèvres, des poules, des champs d'amandiers et d'oliviers. Mon grand-père paternel était imam et ma grand-mère a toujours été mère au foyer. Leurs familles sont très modestes. Mon père doit arrêter l'école très tôt.
À l'âge de 6 ou 7 ans, j'ai rentré à l'école coranique, j'ai étudié le Coran. Et voilà, actuellement, je connais le Coran par cœur. Et j'ai fait quelques années des études, c'est-à-dire de 7 à 2 ans, j'ai rentré à l'école, j'ai pris un peu de français et tout ça, c'est-à-dire les alphabétisations. Après, j'ai quitté l'école parce qu'on n'avait pas des moyens. On n'avait pas des moyens de. Disons, on s'est déplacé à cet âge, on s'est déplacé à 12-15 km par jour.
Lorsque ma mère atteint l'âge d'aller à l'école, les cours pour les filles sont arrêtés dans son village. Elle ne met jamais les pieds à l'école. Ma mère ne parle pas français. Elle parle amazir, berbère et darija, un arabe dialectal marocain, une espèce de mélange d'arabe, de français, d'amazir et d'espagnol. Mes parents se marient en octobre
1971.
À cette époque, dans de nombreuses familles, la norme était le mariage arrangé. Les parents choisissaient et organisaient l'union. Mes parents se sont d'ailleurs rencontrés le jour de leur mariage. Lorsque ma nièce demande à ma mère si mon père lui a plu au premier regard, sa réponse est sans équivoque. Il n'est pas question de séduction ou d'amour, pas encore. Cela viendra après. Cela se construit pendant toutes ces années. Juste avant de tomber malade, mon père m'a dit avec joie « Ta mère et moi, ça fera 50 ans de mariage l'année prochaine. » C'est une des dernières choses qu'il médite. Quelques années plus tard, naîtront ma grande sœur, en mars 1973, et mon premier frère, en mai 1975. La même année, mon père répond à l'appel de Hassan II, alors roi du Maroc. Le souverain invite le peuple marocain à entreprendre une marche pacifique vers le sud du pays pour libérer le Sahara de l'occupation espagnole.
Chabir Aziz, غدا inshallah, ستخترق الحدود. غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز.
Mon père et ses amis prennent train et camion à partir d'Oujda, passent par Marrakech pour rejoindre la région de Tarfaya. Un voyage qui durera 36 heures. La marche verte du 6 novembre 1975 rassemblera 350 000 personnes. Pendant plusieurs jours, les volontaires désarmés marchent et portent chacun un Coran et un drapeau national.
Maroc, la marche verte. Verte parce que le vert est la couleur de l'étoile sur le drapeau rouge marocain. C'était la couleur préférée du prophète Mahomet. Et parce que cette marche est aussi une marche sainte. Du moins, c'est ce qu'on leur a dit aux Marocains quand on leur a demandé d'aller récupérer les arpents de sable colonisés par l'Espagne, le Sahara occidental, au cours d'une marche sans précédent dans l'histoire moderne.
Le but de ce voyage, c'est-à-dire pour participer à la marche verte, on était du jour, on ne sait même pas pourquoi on est parti, pourquoi, c'est-à-dire on a entendu l'appel de... Ça a été le roi Sindou à l'époque. Voilà. On n'était pas préparé. Avec les moyens qu'il y avait à cette époque, seulement on a répondu à l'appel. Et ben c'est...
L'année 77 est une année marquée par le deuil et la séparation. Mes parents perdent un de leurs enfants, la petite Ayada, qui meurt quelques jours après sa naissance. Elle porte ce prénom car elle naît entre l'Eid al-Fitr et l'Eid al-Adha. C'est aussi l'année où mon père décide de quitter le Maroc pour trouver du travail.
J'aime ta mère. إيوا وقعد شوية دخل إسبانيا من إسبانيا دخل عاد فرنسا
وكان يجي عندكم في المغرب؟
كان يجي كان خطرة في الأول كان غير 6 شهور عام يجي واحد الخطرة اللي باقي عامين ما جاش كان عاد مازال ما دارش الورق اللي دار الورق كان كل عام يجي
Ma mère explique qu'à son retour de la marche verte et après le deuil qu'ils viennent de vivre, mon père s'en va d'abord en Espagne, puis en France, dans le but de trouver un emploi et d'offrir un avenir meilleur à sa famille. Il rentre au pays tous les ans. Il lui arrive même d'être absent plus longtemps, le temps qu'il trouve le moyen de régulariser sa situation. Il passe un an et demi en Espagne et enchaîne les périodes sans logement ni emploi et les petits boulots, sans connaître la langue du pays. Il arrive en France en mars 78. Mon plus jeune frère naît en septembre 79. Mon père est alors très absent pendant les jeunes années de ses enfants.
C'est vrai, parce que j'avais un vide entre moi et eux. C'est-à-dire le contact, ça n'était pas facile. Voilà, quand on vit dans un pays 10 mois, 12 mois, j'ai resté jusqu'à 17 mois sans les voir et tout ça. Ça a été difficile pour moi.
Pendant toutes ces années, en l'absence de mon père, ma mère assume seule l'éducation de ses trois enfants, tout en s'occupant du foyer.
Ouais, ta maman, il a passé une période difficile, entre, c'est-à-dire, voilà, surtout quand j'ai quitté le Maroc pendant, c'est-à-dire, une dizaine d'années. Même lui aussi, il s'est souffert avec moi et tout ça, et il a tourné le cou et à la fin, ça a été... Voilà. Ta mère aussi, c'est quelqu'un d'honnête, il cherchait toujours d'être... voilà. Surtout par rapport à ses enfants et tout ça. Jusqu'à présent, malgré son âge et tout ça, il cherche des biens pour la famille, quoi, pour la petite famille.
Yeah.
Au début des années 80, mon père cherche à régulariser sa situation. Il milite auprès de l'association AMF, Association des Marocains en France, l'une des plus anciennes associations de l'immigration en France. Sa mission ? Lutter contre l'exclusion, les discriminations et le racisme pour la reconnaissance des droits, entre autres.
Ça n'était pas facile. Et là, on s'est lancé dans un grève de la faim qui a été fait à Avignon en 1982, si je me rappelle la date exactement, avec 114 personnes dans l'église de Saint-Fleury. On a resté sans contact avec l'État, c'est-à-dire ils ont fermé les portes et tout ça. Et après ces 15 jours, on a démarré avec 114 personnes à Nîmes. Et là, au l'État, c'est-à-dire responsable régional et national, ils ont commencé à nous contacter pour. Et malgré ce qu'on a fait à cette époque, on n'a pas regretté. On a eu nos papiers et tout ça. Et voilà. Oui, j'étais content, c'est normal que j'étais content. J'ai réuni ma famille, ma petite famille, c'est normal, c'est logique. C'est logique, il est le premier, son né au Maroc, et la dernière, c'est toi, Titine, c'est Ravignon, et voilà.
En août 1991, je débarque dans la famille fraîchement réunie. Un bébé pas prévu, qui vient sceller le lien avec ce pays d'accueil qui est devenu la France. J'ai longtemps cherché ma place, en pensant à tort n'être qu'une erreur venue bousculer la tranquillité des miens. Mais depuis tout le chemin parcouru, je me dis que ce n'est pas un hasard si je suis née à ce moment bien précis, celui où ma famille s'est retrouvée. Ma naissance est venue marquer un nouveau départ. C'est en tout cas le sens que j'ai décidé de donner à cet héritage. Je grandis dans un cocon protecteur, dans lequel chaque nuit, je m'endors au son des comptines du bled.
C'est où que tu te sens chez toi ?
Oh, je me sens chez toi, je me sens partagé, c'est-à-dire avoir chez soi actuellement, mais je suis toujours attaché au bled, parce que là où j'ai mes racines, j'ai mes souvenirs, j'ai ma mère, c'est-à-dire qui m'a, voilà, à l'âge de 90 ans, c'est pas. Je veux bien d'être à côté d'elle, parce que c'est, on ne sait pas qui c'est qui va partir en premier, voilà, mais avant, actuellement,
Et où c'est chez moi ? Où est-ce que les gens me ressemblent ? Longtemps, j'ai cru être seule à traverser tous les questionnements qui m'animent depuis mon enfance. Cette double culture, ce poids d'une immigration que je n'ai pas vécue. Je pensais ne ressembler à personne pour finalement réaliser à 29 ans que j'ai hérité des combats qui ont rythmé la vie de mes parents et que nous sommes nombreux et nombreuses à écrire une nouvelle page de cette histoire.
واش كليتي واش شربتي التفاح والنفاح يا خبيب ومفتاح.
Merci d'avoir écouté ce récit. L'histoire de mes parents, de mes frères et sœurs, mon histoire. Longtemps, j'ai essayé de grandir en me détachant de la culture de ma famille. Je me suis sentie différente, j'ai voulu avancer à contre-courant. Ces errances, je ne les regrette pas, car elles ont contribué à faire la personne que je suis aujourd'hui. Et je me rends compte à quel point l'héritage de mes parents est ancré en moi. Leurs doutes, leurs peurs, leurs espoirs et leurs joies résonnent. Je suis prête à ajouter une nouvelle route à leur voyage, de manière plus apaisée, car je sais maintenant pourquoi je suis là. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère t'avoir donné envie de creuser dans ton passé, et si c'est le cas, je serai ravie que tu me partages ton histoire. Elles sont riches, elles sont légitimes, malgré tout ce qu'on a pu te dire, elles font partie de l'histoire de la France. L'histoire de ma famille, mon histoire, ton histoire, valent la peine d'être racontées. À nos identités plurielles.